Espace Consommateur. Espace Consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace Consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace Consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.
Le gouvernement a reconduit la fermeture saisonnière des pêches pour préserver les ressources halieutiques. Cette décision n'est pas sans conséquences pour les acteurs du secteur à Abobo-Doumé. Un civisme sur Internet, 12 100 dossiers enregistrés, représentant un préjudice de 6,9 milliards de francs CFA en 2024. Un civisme sur nos routes, une opération d'envergure contre les plaques banalisées, fantaisistes et illisibles, est en cours dans le Grand Abidjan. Nous nous intéresserons en dernière partie de ce magazine aux bienfaits des champignons en cuisine. Madame, Monsieur, merci et bienvenue à Espace Consommateur.
Espace Consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Droits et devoirs du consommateur.
Pour l'année 2025, la fermeture temporaire des pêches est effective depuis le 1er juillet et prendra fin le 31 juillet pour la pêche artisanale maritime et du 1er juillet au 31 août pour les pêches semi-industrielles et industrielles. Ainsi en a décidé le ministère des Ressources animales et halieutiques. Mais depuis l'entrée en vigueur de cette décision gouvernementale, c'est un calme plat qui règne au quai d'Abobo-Doumé, dans la commune de Yopougon, qui habituellement connaît une ambiance de fête. Les caisses de conservation de poissons sont vides et cette période de repos biologique impacte considérablement les activités des mareyeuses, en témoignent Madeleine Minelou et Victoire Lazier.
Les frigos sont vides, il n'y a rien dans les frigos, vraiment on ne s'en sort pas. Bon, quand on ferme, moi je ne peux pas rester trop à la maison. On prend les poissons congelés là, mais ça ne sort pas. Quand tu vends, souvent on en coupe. J'ai pris dernièrement, c'est un peu là qui reste là, si ça finit, moi je ne vais plus au port. Parce que ça ne m'arrange pas, ça gâte mon argent. Septembre, c'est la rentrée. En tout cas, on ne s'en sort pas.
Même les gens qui viennent payer pour aller à la maison, ça n'arrange personne. Parce que aujourd'hui, si c'est les cartons qu'ils doivent payer là, c'est pas tout le monde qui mange du salé. Si c'est naturel. On n'a pas d'alternative. On est à la maison, c'est ça seulement qu'on fait. Si aujourd'hui j'ai 100 000 et que les 100 000 là, j'ai dépensé dans la fermeture de pêche, je vais faire comment pour reprendre mon commerce.
Cette mesure d'interdiction touche également les autres maillons de la chaîne, notamment les découpeurs de poissons qui ne cessent de se plaindre de cette situation. Hervé Segui.
Nous sommes ici quand les gens achètent du poisson, nous découpons le poisson. Mais quand il y a la fermeture d'eau, vraiment c'est un mois de galère. Et ce mois de galère a un impact négatif sur notre activité qui d'ailleurs ne nous arrange pas.
Le consommateur final n'est pas aussi épargné, fait savoir Ngo Simon, client rencontré sur place.
Quand je suis arrivé, on m'a dit que l'eau est fermée et donc du coup les prix ont flambé. Un thon que j'achetais par exemple à 4000 francs, aujourd'hui il est vendu à un congelé qui sort des congélateurs qu'on nous vend.
La conseillère de la coopérative des mareyeuses d'Abobo-Doumé plaide donc auprès du gouvernement pour que la période de fermeture temporaire des pêches soit désormais revue afin qu'elles puissent faire face à leurs charges. Patricia Adjo.
La fermeture, vraiment, d'eau ne nous arrange pas. Si vraiment l'État pouvait voir que dans le mois de soit janvier, février, c'était bon. C'est en juin, août, il y a poisson. Mais si vraiment le mois de juin ne travaille pas, nous sommes à la maison. Bientôt, c'est la rentrée des classes. On ne sait même pas comment faire pour inscrire nos enfants. Surtout étant veuve que je suis, vraiment, j'ai des problèmes. Donc vraiment, nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire. S'ils peuvent nous arranger en changeant le mois, vraiment, ça va nous aider.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, en procédant le lundi 30 juin au lancement officiel du report biologique 2025, a rappelé que cette mesure répond à la stratégie nationale de gestion durable des pêches ainsi qu'aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Espace consommateur.
On met actuellement le cap sur la ville de Grand Laou, dans la région des Grands Ponts, où 20 jeunes, dont 3 femmes, viennent d'être formés aux techniques de production de tomates hors sol. Ils ont reçu le samedi 12 juillet dernier leur diplôme de fin de formation et leur kit d'installation. C'était dans le cadre du projet intitulé « Insertion des jeunes de Grand Laou dans l'agriculture urbaine et biologique ». Elle vise à renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir l'autonomisation des jeunes pour l'agriculture innovante. Un aboutissement de 3 mois de formation intense pour produire de la tomate hors sol. Une initiative d'Abidjan Legacy Programme coordonnée par Abou Bamba.
En produisant la tomate et d'autres fruits et légumes, on réduit notre dépendance de la vie étrangère, protège notre économie, on investit sur place ici pour produire de la tomate et surtout on crée des emplois. À la fin là, nous ce qu'on veut en tant que gouvernement, c'est que les jeunes aient l'argent dans leur poche, qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs enfants et se projeter aussi en toute sérénité par rapport à l'avenir.
Ces jeunes sont équipés de kits d'irrigation goutte à goutte pour 250 mètres carrés, de pulvérisateurs à dos, de sachets de culture, d'engrais et de semences de tomates biologiques. Cet équipement va leur permettre d'augmenter leur récolte de tomates et revenus par 3 ou 4 sur une année, selon le délégué des récipiendaires, Patrick Agnan.
Avec ce que nous avons appris sur les 250 mètres carrés, nous pouvons faire 1,5 tonne, 2 tonnes même. La tonne nous reviendrait à 1 million de francs CFA, après 3 à 4 mois maximum.
Lors de la cérémonie, la première promotion de jeunes agriculteurs a passé le flambeau à leur cadet de la deuxième promotion. À long terme, Abidjan Legacy Programme veut étendre la formation en culture hors sol de tomates à toutes les communes et régions de Côte d'Ivoire. Les patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire ont pour ambition de nourrir plus efficacement la population ivoirienne. Pour cela, ils ont décidé d'introduire des produits locaux dans la fabrication du pain. Cette initiative vise non seulement à enrichir la valeur nutritive du pain, mais aussi à anticiper d'éventuelles pénuries de la farine de blé sur le marché. Cette information a été relayée par le président de la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, Abbé Akwe Marius, lors d'une caravane promotionnelle intitulée « Consommons le pain de chez nous » organisée dans une douzaine de localités du pays et qui était récemment à l'étape de Yamoussoukro.
Nous sommes rassemblés pour dire à la population ivoirienne que les boulangers de Côte d'Ivoire vont désormais apporter à leur assiette, dans leur pain quotidien, la farine de manioc, la farine de maïs, la farine de patate, la farine de banane, afin que le pain qui est mis à votre disposition soit un pain beaucoup plus riche. Jusque-là, le pain que vous avez eu au petit déjeuner était un pain fait uniquement que de farine de blé. Avec l'avancée de la technologie aujourd'hui, nous intégrons ce que nous appelons le pain composé. Et ce pain-là a été l'objet de normes au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. La nouvelle norme NI380 qui prend en compte l'intégration dans la panification de nos céréales locales. Le pain de chez nous, c'est le nom que nous donnons à ce pain composé. Mais il ne s'agit pas seulement que de remplacer le blé par de la farine locale. Il s'agit aussi surtout de nourrir plus efficacement nos populations en mangeant le pain. Il s'agit aussi surtout de créer une dynamique de richesse dans nos régions par la culture de ces céréales-là qui vont entrer dans la fabrication du pain. Il s'agit aussi de permettre que des entreprises de transformation qu'on appelle des minoteries voient le jour un peu partout.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Info consommateur.
Dans le cadre de la tribune d'échange hebdomadaire Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, le directeur du pôle technologie et opération de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, le lieutenant-colonel Ali Samassi, a révélé des chiffres enregistrés par sa structure représentant un préjudice financier énorme.
Comparé aux années 2023 et 2022, pour le nombre de plaintes, en 2023, 8132 et en 2022, 6579 pour des préjudice respectif 2023 de 9 milliards 206 millions et 6 milliards 292 millions. Vous constaterez avec moi que sur ces 3 années, il y a une hausse du nombre de plaintes. Par contre, il y a une diminution du préjudice. Pour le nombre de plaintes, cette hausse pourrait s'expliquer principalement par le fait que les populations sont beaucoup plus pénétrées par l'outil informatique. Aussi, les campagnes de sensibilisation que nous avons menées ont permis aux internautes de savoir qu'une structure existe pour prendre leurs plaintes. Et aussi, les suspects qui pensent qu'ils sont cachés derrière un outil et qu'il y a moins de risques lors de la perpétration de l'infraction qu'ils sont en train de faire. Et donc, ceci pourrait expliquer le nombre de plaintes qui a augmenté. Je disais que le préjudice a diminué, en effet, mais en 2023, vous voyez une hausse de 9 milliards parce qu'il y a des entreprises qui ont été victimes de ces actes cybercriminels en 2023. Une seule entreprise établie dans le monde financier, c'est près de 1 milliard, 2 milliards souvent de préjudice que subit cette entreprise. Alors, on pourrait se demander pourquoi tout ce nombre élevé de plaintes au sein de l'ANSSI pour les questions de cybercriminalité. On va juste se limiter sur les 5 premières infractions qui sont les plus connues. Donc, la première infraction, c'est l'atteinte à la dignité humaine. La deuxième, l'escroquerie sur Internet. La troisième, l'utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et morales. Et l'atteinte à l'honneur et à l'image. Et enfin, la spoliation de comptes mail ou réseaux sociaux. Quand on prend toujours les 5 premiers au niveau du préjudice, vous allez avoir l'escroquerie sur Internet qui vient au top avec 2 milliards de préjudice. En deuxième position, l'utilisation frauduleuse d'éléments d'identification pour 1 milliard 900 millions. En troisième position, l'atteinte à la dignité humaine, 860 millions. En quatrième position, la fraude sur les transactions électroniques, 496 millions. Et enfin, la fraude bancaire, 191 millions. Les victimes de toutes ces plaintes-là, c'est en gros 60% d'hommes, 38% de femmes et 4% d'entreprises. Ces 4% d'entreprises vont représenter 48% du préjudice. Donc, vous avez des individus qui sont victimes, mais les entreprises sont de plus en plus victimes des actes cybercriminels. L'incivilité sur Internet, c'est le fait de ne pas respecter les règles de vie qui permettent à la société de bien fonctionner. Mais cette fois-ci, le déporter sur Internet, ça va se caractériser par l'atteinte à l'image, l'atteinte à la dignité. Aujourd'hui, qui faisait des milliers de plaintes. Donc, des individus qui vont prendre votre photo, votre vidéo, qui vont essayer de la diffuser sur Internet en demandant des rançons. Et donc, ce sont autant de choses qu'il faut éviter. Aussi, à l'approche de ces élections-là, on a les mauvaises informations, les fake news sur Internet qui sont divisées par des internautes. Donc, aujourd'hui, l'ANSSI vient pour dire aux internautes que le cyberespace n'est pas un espace de non-droit. C'est un espace qui est autant régulé que le monde physique.
De la lutte contre l'incivisme sur Internet, on passe à l'incivisme sur nos routes. À Abidjan, une vaste opération de contrôle des plaques d'immatriculation banalisées, fantaisistes ou illisibles, est en cours. Menée par le ministère des Transports à travers la Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation, cette action implique également la police nationale et des volontaires mobilisés à cet effet. Reportage Junior Cardin.
Nous avons suivi les équipes sur le terrain, en plein cœur d'Abidjan. Sur place, des véhicules sont immobilisés, des conducteurs interrogés.
Je sais pourquoi je vous dis ça. Et la télé qui me fait, il ne va pas parler. Si vous voulez, je vous explique pourquoi c'est comme ça.
Non, j'ai mis la plaque même devant Dieu, devant la tête, ça va pas une semaine. Non, mais moi, je ne savais pas, mais en fait. Si j'avais su ça même, j'allais enlever des plus. Sinon, j'ai les papiers. Vraiment, une fois de plus, ça les a suivis.
Mais pour l'heure, pas de sanctions immédiates. Le commissaire Guigui Jean Bidel insiste sur l'aspect pédagogique de l'opération.
Pour l'instant, comme nous sommes au stade de la sensibilisation, parce qu'on va retirer les plaques, les confisquer et puis le laisser passer.
Même message du côté du préfet de police, Yéo Kolo, qui invite les automobilistes à se mettre rapidement en règle.
Tout véhicule en circulation doit être doté d'une plaque d'immatriculation lisible et non fantaisiste. En tant qu'agent d'application de la loi, nous faisons notre travail et nous invitons les populations à se conformer à la réglementation.
En milieu de journée, le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Sako Oumar, a dressé un premier bilan après plusieurs heures d'opération.
Le constat qu'on fait déjà, c'est que beaucoup des véhicules se sont mis en règle avant que l'opération ne débute. On a eu quelques cas de figure où des plaques ont été dissimulées parce que les gens veulent échapper au système de contrôle de vidéo-verbalisation. Il y a des personnes aussi qui ont des véhicules administratifs et donc pour des raisons qui leur sont propres, décident de dissimuler leurs plaques. Les plaques ont été retirées.
Le ministère des Transports veut, à travers cette action, renforcer la traçabilité des véhicules en circulation. Une mesure qui vise à améliorer la sécurité intérieure en luttant contre l'anonymat sur les routes.
Un certificat d'aptitude à la conduite routière bientôt exigé pour tous les chauffeurs professionnels en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite à l'occasion de la 30e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Le sous-directeur des opérations à l'Office de sécurité routière, Raphaël Iriebi, en explique les enjeux.
L'OSER a reçu les instructions de M. le ministre des Transports. Donc l'OSER forme au CACR. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 11 000 conducteurs et à plus de 3 000 gestionnaires d'entreprises de transport qui ont été formés depuis 2017. Donc ça court actuellement au centre de formation de Sotra. Vous savez, le CACR, la raison elle est toute simple et elle est importante. Aujourd'hui, on dit j'ai le permis toute catégorie, sachant que M. Irié a été formé sur un véhicule, je dirais, particulier de 5 places. Et demain, je me trouve à bord d'un véhicule particulier, d'un cas de 70 places. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes conditions. Donc le CACR vient combler ce vide pour dire quoi ? Non seulement le CACR CACR, il se renouvelle chaque 2 ans. C'est un recyclage qu'on fait, étant donné que tout évolue. Dorénavant, et les votes plus autorisés vont donner ce temps-là. Quand les forces de l'ordre vont me contrôler, je tends mon permis en me demandant mon CACR. C'est-à-dire que c'est ces deux éléments-là que je dois présenter, et ce sont ces deux éléments qui m'autorisent à être à bord d'un véhicule de transport, que ce soit privé ou public, hein, en tant que conducteur professionnel. Donc oui, l'OSER forme, le CACR continue d'être, je dirais, travaillé dans ce sens. Et quant au dernier accident à Zaguier, à Beauville, effectivement, il y a moins d'une semaine, on a reçu les responsables pour que rapidement, on commence à former ces conducteurs-là avant qu'ils ne reprennent la route.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Bon à savoir.
Autrefois classé parmi les algues, le champignon n'est pas vraiment végétal, mais pas animal non plus. Cela lui confère certaines spécificités nutritionnelles à teneur égale en calories. Il est par exemple plus riche en protéines que les légumes verts. Découvrez ici 6 bonnes raisons de penser à le cuisiner. Quels sont les bienfaits de manger des champignons? Les champignons sont-ils vraiment si nutritifs? De tout temps, les champignons ont fait partie de l'alimentation humaine et ils sont utilisés à la fois comme aliment et comme médicament. Les champignons représentent une source méconnue de vitamines et d'oligo-éléments. Des chercheurs américains viennent de publier dans la revue Food Science et Nutrition une analyse très précise des nutriments contenus dans les champignons. Déjà considérés comme des aliments intéressants dans le cadre d'un régime hypocalorique, ils sont également riches en fibres solubles, utiles contre la constipation. Leur contenu en protéines est de plus nettement supérieur à celui des légumes. Cette nouvelle recherche révèle qu'une portion quotidienne de champignons augmente les apports de plusieurs autres micronutriments et vitamines. Le fait d'ajouter à un repas une portion de champignons apporte en effet des éléments peu présents dans l'alimentation usuelle. Cuivre, phosphore, potassium, sélénium, zinc, riboflavine et niacine. Est-il bon de manger des champignons le soir? La consommation de champignons est idéale le soir. Vous pouvez manger une poignée de champignons frais et crus, simplement assaisonnés d'un jus de citron et de quelques herbes aromatiques. Vous pouvez faire aussi une poêlée de champignons avec un peu de matière grasse, comme de l'huile d'olive. Quelle quantité de champignons peut-on manger par jour? La quantité de champignons que l'on peut consommer par jour dépend de plusieurs facteurs, notamment l'état de santé générale, les besoins nutritionnels individuels et la variété de champignons consommés. Toutefois, voici des lignes directrices générales et des considérations pour une consommation saine de champignons. Il est recommandé de manger entre 150 et 200 g de champignons par adulte et par semaine. Consommer différentes espèces de champignons, champignons de Paris, shiitake, pleurote, etc., aider à bénéficier d'un éventail plus large de nutriments. Comment conserver les champignons? Il faut toujours garder en tête qu'un champignon se conserve très peu de temps. Sa durée de vie est relativement courte, 4 à 5 jours au réfrigérateur. Le mieux, c'est de les laisser à l'air libre et de ne pas les couvrir, donc éviter les sacs plastiques. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio de la Paix.
Espace consommateur. Espace consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.